à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Pierre Egea, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être venu pour ce quatrième et dernier entretien entre un professeur de droit public que vous êtes à l'Université Toulouse-Capitole, mais aussi un chrétien engagé dans sa paroisse Saint-Étienne. Et il y a un certain nombre de sujets qui interpellent les deux côtés du personnage, je dirais. Un sujet récent qui est celui de la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Donc, je voudrais que le constitutionnaliste, sans oublier qu'il est chrétien, nous parle de cette évolution de la Constitution, nous dise ce qu'il en pense et nous dise si, au fond, c'était logique, normal, souhaitable, et est-ce que ça va changer quelque chose ?
Alors,
il y a plusieurs questions.
Je vais essayer d'y répondre. D'abord, il faut revenir à l'origine de cette affaire, c'est-à-dire que la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse vient curieusement d'une décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique qui, dans un arrêt du 24 juin 2022, un arrêt Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, est revenu sur une jurisprudence antérieure de 1973, Roe contre Wade, décision de 1973 qui avait libéralisé l'interruption volontaire de grossesse au niveau fédéral. Cette décision donc, qui a été rendue le 24 juin 2022 a été considérée comme une victoire du conservatisme sur le progressisme et assez curieusement donc, cette décision a eu un effet d'extraterritorialité puisqu'elle a eu pour effet justement de provoquer un débat en France qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent. Un débat sur la nécessaire constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. C'est le contexte.
Ouais.
Donc un contexte complètement extérieur à la France.
Ouais.
Parce que disons les choses clairement...
Dans un cadre juridique très différent aussi.
Dans un cadre juridique qui n'a absolument rien à voir.
On ne peut pas dire mutatis mutandis.
Mais c'est impossible. Le système américain fonctionne à coup de jurisprudence. L'évolution sociétale se fait effectivement par des arrêts de la Cour suprême des États-Unis. En France, ça a toujours été la loi. Qui a fait évoluer les régimes juridiques. D'ailleurs, pour ce qui concerne l'IVG, c'est la loi du 17 janvier 1975, la loi dite Veil, qui avait libéralisé l'IVG dans des conditions bien particulières. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en réalité, certes, la décision de la Cour suprême des États-Unis, elle est signifiante. Mais elle est signifiante pour les États-Unis d'Amérique. En France, depuis 1975, il n'y a jamais eu de velléité de modifier la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Je n'ai jamais entendu un parti politique prétendre qu'il fallait revenir sur cette loi. J'ajoute au surplus que le texte de 1975 a été révisé en 2001, que les droits des femmes se sont étoffés progressivement. Donc on a au contraire une montée progressive en faveur de l'IVG et pas du tout une remise en question. Donc je me suis toujours interrogé, effectivement, à partir du moment où ça a été évoqué, je me suis interrogé sur la signification réelle de cette constitutionnalisation. Voilà, quand on sait d'où ça part, on se pose déjà la question de l'opportunité, tout simplement, hein, de constitutionnaliser l'IVG. Et puis, à partir du moment où s'est posée cette problématique de constitutionnalisation de l'IVG, qui est devenue en réalité un problème politique...
Oui, clairement.
À partir de ce moment-là, la question qui s'est posée, c'est que faisait-on On n'a pas dans le droit constitutionnel français, qui est un droit qui ne proclame pas des droits et libertés, on les trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a des normes que l'on a regroupées, qui sont celles qui se trouvent dans les préambules successifs, mais on n'a pas, comme en Allemagne, une charte des droits fondamentaux, et donc où loger ce droit à l'interruption volontaire de grossesse. Donc sur le plan technique, ça posait des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, on s'est retrouvé avec un texte constitutionnel, celui qui vient d'être approuvé et voté par le Congrès, à une très large majorité, qui nous dit simplement « la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Donc le texte ne fait simplement que donner une compétence au législateur, hein, puisque l'article 34, c'est les compétences du législateur, le texte ne fait que donner une compétence au législateur et effectivement interdit qu'on remette en cause l'IVG, puisque la loi ne peut que garantir l'IVG. Bien évidemment...
On peut toujours, ce qu'un Parlement a fait, un Parlement peut le défaire. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours imaginer dans un avenir, pas court terme évidemment, qu'un Parlement décide de revenir sur ce...
Alors, si le Parlement voulait revenir sur l'IVG, imaginons un Parlement qui souhaite revenir sur l'IVG, il faudrait qu'il en passe par une révision constitutionnelle.
Oui.
Ce qui signifie vote à l'Assemblée nationale, au Sénat, puis réunion du Congrès ou référendum. Il est évident, c'est le problème de ce que j'appelle moi le fétichisme constitutionnel. C'est-à-dire qu'il est évident que ce n'est pas parce qu'on loge quelque chose dans la Constitution
que c'est gravé ad vitam aeternam.
C'est gravé ad vitam aeternam pour la simple et bonne raison que, imaginons une majorité qui serait par construction hyper conservatrice, qui voudrait revenir sur ce texte constitutionnel, il suffirait de le réviser. On n'a pas créé un texte supraconstitutionnel. Donc ce n'est qu'une question de degré. Effectivement, l'IVG est aujourd'hui à l'abri d'une réforme législative, mais ne serait de toute façon pas à l'abri d'une réforme constitutionnelle. Bon, donc un certain nombre de libéraux peuvent se satisfaire d'une montée en puissance de l'IVG qui n'était effectivement pas garantie constitutionnellement par le Conseil constitutionnel, qui n'avait jamais indiqué ou précisé que cette liberté ou ce droit était un droit de valeur constitutionnelle. Mais, pour autant, encore une fois, ce droit ou cette liberté n'était absolument pas remis en cause.
Dans les débats qu'il y a eu au moment de ce qui a été considéré par beaucoup d'hommes politiques, quand même, disons-le, comme une grande victoire, alors que vous nous dites que finalement... c'est plus symbolique qu'autre chose, parce que sur le fond, il y avait déjà tout l'appareil législatif nécessaire qui avait évolué, qui pouvait continuer à évoluer sans qu'on ait besoin de faire ça. Mais ça a quand même été présenté comme une grande victoire. Et il y a un débat qui n'est pas tranché, c'est celui de la clause de conscience. Jusqu'à maintenant, les médecins peuvent refuser de pratiquer, les médecins ou les infirmières, enfin... les gens qui soignent peuvent refuser de pratiquer un IVG en opposant une clause de conscience. Et par exemple, on peut très bien imaginer que des chrétiens disent « non, moi, je ne pratique pas ce genre d'acte et donc allez voir ailleurs ». Est-ce qu'on ne risque pas de revenir dessus ? Il y a des partis politiques, notamment la France Insoumise, qui réclament que justement on supprime cette clause de conscience. Ça vous paraît possible ?
Alors... Pour répondre à la question, je reviens sur un point historique. En 1975, quand la loi Veil a été votée, c'était une loi dite de liberté. Elle dépénalisait l'IVG jusqu'à la 10e semaine, ou jusqu'à la fin de la grossesse si l'enfant avait des malformations extrêmement graves, ou si la poursuite de la grossesse mettait la femme en danger. Mais en revanche, le texte qui était un texte de dépénalisation ne prévoyait rien d'autre, de sorte que l'on s'est trouvé dans une situation en 1975 où, dans un certain nombre d'hôpitaux, les chefs de service interdisaient qu'on pratique des IVG. Ça, c'est la réalité. C'est la raison pour laquelle les choses ont considérablement évolué, Pour ce qui me concerne, je pense que la grande évolution, ce n'est pas la révision constitutionnelle de 2024, c'est la loi de 2001 qui a conféré un véritable droit subjectif aux femmes. Et là, il y a des évolutions considérables, puisqu'on a pénalisé les comportements anti-IVG, et l'on a créé l'obligation pour le chef de service d'organiser un service d'IVG. Donc en fait, aujourd'hui, en France, dans les hôpitaux, quelles que soient les clauses de conscience, le chef du service obstétrique,
pas obligé de le faire lui-même,
il est obligé de mettre en place un service qui fonctionne.
Dans les hôpitaux publics.
Dans les hôpitaux. Donc on voit bien que de ce point de vue-là, depuis 2001, hein, les choses sont très claires. Alors, maintenant j'en viens à la clause de conscience proprement dite. Cette affaire de clause de conscience, c'est une affaire très délicate. Depuis 1975, le législateur a toujours dit que c'était une loi de liberté. Liberté pour les femmes d'interrompre leur grossesse, liberté pour les médecins, pour des raisons de conscience, de refuser. Je pense que revenir sur la clause de conscience, c'est franchement remettre en cause une liberté absolument cardinale. Et pour un médecin, dont le serment d'Hippocrate lui commande de ne pas nuire, peut très bien considérer, pour des raisons de conscience, qu'on ne peut pas nuire à un être humain. Puisque la loi elle-même dit que l'embryon fœtus est un être humain. Ce n'est pas une personne, mais c'est un être humain. Donc cette clause de conscience, de mon point de vue, juridiquement, doit être préservée.
Eh bien, merci Pierre Egea pour cet éclairage sur un sujet évidemment extrêmement sensible, délicat, qui a fait beaucoup couler d'encre et sur lesquels les chrétiens ont largement pris position. Merci de votre contribution, monsieur le professeur.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir.